Livre 3, chapitre 3, grand 2. Tous ces rites ressortissent au même type. Le principe sur lequel ils reposent est un de ceux qui sont à la base de ce qu'on appelle communément et improprement la magie sympathique. Ces principes se ramènent ordinairement à deux. Le premier peut s'énoncer ainsi. Ce qui atteint un objet atteint ainsi tout ce qui soutient avec cet objet un rapport de proximité ou de solidarité quelconque. Ainsi, ce qui affecte la partie affecte le tout. Toute action exercée sur un individu se transmet à ses voisins, à ses parents, à tous ceux dont il est solidaire, à quelque titre que ce soit. Tous ces cas sont de simples applications de la loi de contagion que nous avons précédemment étudiée. Un état, une qualité, bonne ou mauvaise, se communique contagieusement d'un sujet à un sujet différent qui soutient quelque rapport avec le premier. Le second principe se résume d'ordinaire dans la formule « le semblable produit le semblable ». La figuration d'un être ou d'un état produit. La figuration d'un être ou d'un état produit cet être ou cet état. C'est cette maxime que mettent en œuvre les rites qui viennent d'être décrits, et c'est à leur occasion que l'on peut le mieux saisir ce qu'elle a de caractéristique. L'exemple classique de l'envoûtement, que l'on présente généralement comme l'application typique de ce même précepte, est beaucoup moins significatif. Dans l'envoûtement, en effet, il y a en grande partie un simple phénomène de transfert. L'idée de l'image est associée dans les esprits à celle du modèle. Par suite, les effets de l'action exercée sur la statuette se communiquent contagieusement à la personne dont elle reproduit les traits. L'image joue, par rapport à l'original, le rôle de la partie par rapport au tout. C'est un agent de transmission. Aussi croit-on pouvoir obtenir le même résultat en brûlant les cheveux de la personne qu'on veut atteindre. La seule différence qu'il y ait entre ces deux sortes d'opérations, c'est que dans l'une, la communication se fait par la voie de la similarité, dans l'autre, par le moyen de la contiguïté. Il en est autrement des rites qui nous occupent. Ils ne supposent pas seulement le déplacement d'un état ou d'une qualité donnée qui passe d'un objet dans un autre, mais la création de quelque chose d'entièrement nouveau. Le seul fait de représenter l'animal donne naissance à cet animal et le crée. En imitant le bruit du vent ou de l'eau qui tombe, on détermine les nuages à se former et à se résoudre en pluie, etc. Sans doute, la ressemblance joue un rôle dans les deux cas, mais très différent. Dans l'envoûtement, elle ne fait qu'imprimer une direction déterminée à l'action exercée. Elle oriente, dans un certain sens, une efficacité qui ne vient pas d'elle. Dans les rites dont il vient d'être question, elle est agissante par elle-même et directement efficace. Aussi, contrairement aux définitions usuelles, ce qui différencie vraiment les deux principes de la magie dite sympathique et les pratiques correspondantes, ce n'est pas que la contiguïté agit dans les unes et la ressemblance dans les autres, mais c'est que, dans les premières, il y a simple communication contagieuse, dans les secondes, production et création. Expliquer les rites mimétiques, c'est donc expliquer le second de ces principes et réciproquement. Nous ne nous arrêterons pas longtemps à discuter l'explication qu'en a proposée l'école anthropologique, Taylor et Fraser notamment. Tout comme pour rendre compte de la contagiosité du caractère sacré, ils invoquent les propriétés de l'association des idées. La magie homéopathique, dit Fraser, qui préfère cette expression à celle de magie mimétique, repose sur l'association des idées par similarité. Comme la magie contagieuse, contagious magic, sur l'association des idées par contiguïté. La magie homéopathique commet la méprise de prendre pour identique des choses qui se ressemblent. Mais c'est méconnaître le caractère spécifique des pratiques qui sont en cause. Par un côté, la formule de Fraser pourrait s'appliquer, avec quelques convenances, au cas de l'envoûtement. Là, en effet, deux choses distinctes sont assimilées l'une à l'autre, en raison de leur ressemblance partielle. C'est l'image et le modèle qu'elles représentent plus ou moins schématiquement. Mais dans les rites mimétiques que nous venons d'observer, l'image seule est donnée. Quant au modèle, il n'est pas, puisque la nouvelle génération de l'espèce totémique n'est encore qu'une espérance, et même une espérance incertaine. Il ne saurait donc être question d'assimilation, erronée ou non. Il y a création, proprement dite, et on ne voit pas comment l'association des idées pourrait faire croire à cette création. Comment le seul fait de figurer les mouvements d'un animal pourrait-il donner la certitude que cet animal va renaître en abondance ? Les propriétés générales de la nature humaine ne sauraient expliquer des pratiques aussi spéciales. Au lieu donc de considérer le principe sur lequel elle repose sous sa forme générale et abstraite, replaçons-le dans le milieu moral dont il fait partie et où nous venons de l'observer. Rattachons-le à l'ensemble d'idées et de sentiments dont procèdent les rites où il est appliqué, et nous pourrons mieux apercevoir les causes dont il résulte. Les hommes qui se réunissent à l'occasion de ces rites croient réellement être des animaux ou des plantes de l'espèce dont ils portent le nom. Ils se sentent une nature ou végétale ou animale, et c'est elle qui constitue, à leurs yeux, ce qu'il y a de plus essentiel et de plus excellent en eux. Une fois assemblés, leur premier mouvement doit donc être de s'affirmer les uns aux autres, cette qualité qu'ils s'attribuent et par laquelle ils se définissent. Le totem est leur signe de ralliement. Pour cette raison, comme nous l'avons vu, ils le dessinent sur leur corps. Mais il est non moins naturel qu'ils cherchent à lui ressembler par leurs gestes, leurs cris, leur attitude. Puisqu'ils sont des émous ou des kangourous, ils se comportent donc comme des animaux du même nom. Par ce moyen, ils se témoignent mutuellement qu'ils sont membres de la même communauté morale, et ils prennent conscience de la parenté qui les unit. Cette parenté, le rite ne se borne pas à l'exprimer. Il la fait ou la refait. Car elle n'est qu'autant qu'elle est crue, et toutes ces démonstrations collectives ont pour effet d'entretenir les croyances sur lesquelles elle repose. Ainsi, ces sauts, ces cris, ces mouvements de toutes sortes, bizarres et grotesques en apparence, ont en réalité une signification humaine et profonde. L'Australien cherche à ressembler à son totem comme le fidèle des religions plus avancées cherche à ressembler à son dieu. C'est, pour l'un comme pour l'autre, un moyen de communier avec l'être sacré, c'est-à-dire avec l'idéal collectif que ce dernier symbolise. C'est une première forme de l'homoiosis totéo. Toutefois, comme cette première raison tient à ce qu'il y a de plus spécial dans les croyances totémiques, si elle était seule, le principe d'après lequel le semblable produit le semblable n'aurait pas dû survivre au totémisme. Or, il n'est peut-être pas de religion où l'on ne trouve des rites qui en dérivent. Il faut donc qu'une autre raison soit venue se joindre à la précédente. Et en effet, les cérémonies où nous l'avons vu appliquer n'ont pas seulement l'objet très général que nous venons de rappeler, si essentiel qu'il soit, mais elles visent, en outre, un but plus prochain et plus conscient, qui est d'assurer la reproduction de l'espèce totémique. L'idée de cette reproduction nécessaire hante donc l'esprit des fidèles. C'est sur elle que se concentrent les forces de leur attention et de leur volonté. Or, une même précaution ne peut pas obséder à ce point tout un groupe d'hommes sans s'extérioriser sous une forme matérielle. Puisque tous pensent à l'animal ou au végétal des destinées duquel le clan est solidaire, il est inévitable que cette pensée commune vienne se manifester extérieurement par des gestes, et les plus désignés pour ce rôle sont ceux qui représentent cet animal ou cette plante par un de ses aspects les plus caractéristiques. Car il n'est pas de mouvement qui tienne d'aussi près à l'idée qui remplit alors les consciences, puisqu'ils en sont la traduction immédiate et presque automatique. On s'efforce donc d'imiter l'animal. On crie comme lui, on saute comme lui, on reproduit les scènes où la plante est quotidiennement utilisée. Tous ces procédés de figuration sont autant de moyens de marquer ostensiblement le but vers lequel tous les esprits sont tendus, de dire la chose qu'on veut réaliser, de l'appeler, de l'évoquer. Et ce besoin n'est pas d'un temps, il ne dépend pas des croyances de telle ou telle religion, il est essentiellement humain. Voilà pourquoi, même dans des religions très différentes de celles que nous étudions, les fidèles, réunis pour solliciter à eux ou leur Dieu un événement qu'ils souhaitent ardemment, sont comme nécessités à le figurer. Sans doute, la parole est aussi un moyen de l'exprimer, mais le geste n'est pas moins naturel. Il jaillit tout aussi spontanément de l'organisme. Il devance même la parole, ou, en tout cas, l'accompagne. Mais si l'on peut comprendre ainsi comment ces gestes ont pris place dans la cérémonie, il reste à expliquer l'efficacité qui leur est attribuée. Si l'Australien les répète régulièrement à chaque saison nouvelle, c'est qu'il les croit nécessaires au succès du rite. D'où peut lui être venue cette idée qu'en imitant un animal, on le détermine à se reproduire? Une erreur aussi manifeste semble difficilement intelligible tant qu'on ne voit dans le rite que le but matériel où il paraît tendre. Mais nous savons qu'outre l'effet qu'il est censé avoir sur l'espèce totémique, il exerce une action profonde sur l'âme des fidèles qui y prennent part. Ceci en rapporte une impression de bien-être dont ils ne voient pas clairement les causes, mais qui est bien fondée. Ils ont conscience que la cérémonie leur est salutaire, et en effet, ils y refont leur être moral. Comment cette sorte d'euphorie ne leur donnerait-elle pas le sentiment que le rite a réussi, qu'il a été ce qu'il se proposait d'être, qu'il a atteint le but où il visait? Et comme le seul but qui soit consciemment poursuivi, c'est la reproduction de l'espèce totémique, celle-ci paraît être assurée par les moyens employés, dont l'efficacité se trouve ainsi démontrée. C'est ainsi que les hommes en sont venus à attribuer à des gestes, vains par eux-mêmes, des vertus créatrices. L'efficacité morale du rite, qui est réelle, a fait croire à son efficacité physique, qui est imaginaire. Celle du tout à celle de chaque partie prise à part. Celle du tout à celle de chaque partie prise à part. Les effets vraiment utiles que produit l'ensemble de la cérémonie sont comme une justification expérimentale des pratiques élémentaires dont elle est faite, bien que, en réalité, toutes ces pratiques ne soient nullement indispensables au succès. Ce qui prouve bien d'ailleurs qu'elles n'agissent pas par elles-mêmes, c'est qu'elles peuvent être remplacées par d'autres, de nature très différente, sans que le résultat final soit modifié. Il semble bien y avoir des Inti-Shuma qui ne comprennent que des oblations sans rite mimétique. D'autres sont purement mimétiques et ne comportent pas d'oblations. Cependant, les uns et les autres passent pour avoir la même efficacité. Si donc on attache du prix à ces différentes manœuvres, ce n'est pas à cause de leur valeur intrinsèque, mais c'est qu'elles font partie d'un rite complexe dont on sent l'utilité globale. Il nous est d'autant plus facile de comprendre cet état d'esprit que nous pouvons l'observer autour de nous, surtout chez les peuples et dans les milieux les plus cultivés. Il se rencontre fréquemment des croyants qui, tout en ayant des doutes sur l'efficacité spéciale que le dogme attribue à chaque rite considéré séparément, continuent pourtant à pratiquer le culte. Ils ne sont pas certains que le détail des observances prescrites soit rationnellement justifiable, mais ils sentent qu'il leur serait impossible de s'en affranchir sans tomber dans un désarroi moral devant lequel ils reculent. Le fait même que la foi a perdu chez eux ses racines intellectuelles met ainsi en évidence les raisons profondes sur lesquelles elle repose. Voilà pourquoi les critiques faciles, auxquelles un rationalisme simpliste a parfois soumis les prescriptions rituelles, laissent en général le fidèle indifférent. C'est que la vraie justification des pratiques religieuses n'est pas dans les fins apparentes qu'elles poursuivent, mais dans l'action invisible qu'elles exercent sur les consciences, dans la façon dont elles affectent notre niveau mental. De même, quand les prédicateurs entreprennent de convaincre, ils s'attachent beaucoup moins à établir directement et par des preuves méthodiques la vérité de telle proposition particulière ou l'utilité de telle ou telle observance qu'à éveiller ou à réveiller le sentiment de réconfort moral que procure la célébration régulière du culte. Il crée ainsi une prédisposition à croire, qui devance l'épreuve, qui entraîne l'intelligence à passer par-dessus l'insuffisance des raisons logiques, et qui la porte à aller, comme d'elle-même, au-devant des propositions qu'on lui veut faire accepter. Ce préjugé favorable, cet élan à croire, c'est précisément ce qui constitue la foi. Et c'est la foi qui fait l'autorité des rites auprès du croyant, quel qu'il soit, du chrétien comme de l'australien. Toute la supériorité du premier, c'est qu'il se rend mieux compte du processus psychique d'où résulte sa croyance. Il sait que c'est la foi qui sauve. C'est parce que la foi a cette origine qu'elle est, en un sens, imperméable à l'expérience. Si les échecs intermittents de l'Intishuma n'ébranlent pas la confiance que l'Australien a dans son rite, c'est qu'il tient de toutes les forces de son âme à ses pratiques, où il vient se refaire périodiquement. Il ne saurait donc en nier le principe sans qu'il en résulte un véritable bouleversement de tout son être qui résiste. Mais si grande que soit cette force de résistance, elle ne distingue pas radicalement la mentalité religieuse des autres formes de la mentalité humaine, même de celle qu'on a le plus l'habitude de lui opposer. Celle du savant ne diffère de la précédente qu'en degré. Quand une loi scientifique a pour elle l'autorité d'expériences nombreuses et variées, il est contraire à toute méthode d'y renoncer trop facilement, sur la découverte d'un fait qui paraît la contredire. Encore faut-il être assuré que ce fait ne comporte qu'une seule interprétation, et qu'il n'est pas possible d'en rendre compte sans abandonner la proposition qu'il semble infirmer. Or, l'Australien ne procède pas autrement quand il attribue l'insuccès d'un Intishuma à quelque maléfice, ou l'abondance d'une récolte prématurée à quelque Intishuma mystique célébré dans l'au-delà. Il est d'autant plus fondé à ne pas douter de son rite, sur la foi d'un fait contraire, que la valeur en est, ou en paraît établie, par un nombre plus considérable de faits concordants. D'abord, l'efficacité morale de la cérémonie est réelle, et elle est directement éprouvée par tous ceux qui y participent. Il y a là une expérience constamment renouvelée, et dont aucune expérience contradictoire ne vient affaiblir la portée. De plus, l'efficacité physique elle-même n'est pas sans trouver, dans les données de l'observation objective, une confirmation au moins apparente. Il est normal, en effet, que l'espèce totémique se reproduise régulièrement. Tout se passe donc, dans la très grande généralité des cas, comme si les gestes rituels avaient réellement produit les effets qu'on en attendait. Les échecs sont l'exception. Comme les rites, surtout ceux qui sont périodiques, ne demandent rien d'autre à la nature que de suivre son cours régulier, il n'est pas surprenant que, le plus souvent, elle ait l'air de leur obéir. Ainsi, et s'il arrive aux croyants de se montrer indocile à certaines leçons de l'expérience, c'est en se fondant sur d'autres expériences qui lui paraissent plus démonstratives. Le savant ne fait pas autrement. Il y met plus de méthode. La magie n'est donc pas, comme l'a soutenu Fraser, un fait premier dont la religion ne serait qu'une forme dérivée. Tout au contraire, c'est sous l'influence d'idées religieuses que se sont constitués les préceptes sur lesquels repose l'art du magicien, et c'est seulement par une extension secondaire qu'ils ont été appliqués à des relations purement laïques. Parce que toutes les forces de l'univers ont été conçues sur le modèle des forces sacrées, la contagiosité inhérente aux secondes fut entendue aux premières, et l'on crut que, dans des conditions déterminées, toutes les propriétés des corps pouvaient se transmettre contagieusement. De même, une fois que le principe d'après lequel le semblable produit le semblable se fut constitué pour satisfaire des besoins religieux déterminés, il se détacha de ses origines rituelles pour devenir, par une sorte de généralisation spontanée, une loi de la nature. Mais pour comprendre ces axiomes fondamentaux de la magie, il est nécessaire de les replacer dans les milieux religieux où ils ont pris naissance, et qui, seuls, permettent d'en rendre compte. Quand on y voit l'œuvre d'individus isolés, de magiciens solitaires, on se demande comment des esprits humains ont pu en avoir l'idée, puisque rien dans l'expérience ne pouvait ni les suggérer, ni les vérifier. Surtout, On ne s'explique pas comment un art aussi décevant a pu s'imposer, et pendant si longtemps, à la confiance des hommes. Mais le problème disparaît si la foi qu'inspire la magie n'est qu'un cas particulier de la foi religieuse en général, si elle est elle-même le produit, au moins indirect, d'une effervescence collective. C'est dire que l'expression de magie sympathique, pour désigner l'ensemble de pratiques dont il vient d'être question, n'est pas sans impropriété. Il y a des rites sympathiques, mais ils ne sont pas particuliers à la magie. Non seulement on les retrouve dans la religion, mais c'est de la religion que la magie les a reçus. On ne peut donc que s'exposer à des confusions, en ayant l'air d'en faire, par le nom qu'on leur donne, quelque chose de spécifiquement magique. Les résultats de notre analyse viennent ainsi rejoindre et confirmer ceux auxquels sont arrivés messieurs Hubert et Mauss, quand ils ont étudié directement la magie. Ils ont montré que celle-ci était tout autre chose qu'une industrie grossière, fondée sur une science tronquée. Derrière les mécanismes purement laïques, en apparence, qu'emploie le magicien, ils ont fait voir tout un arrière-fond de conception religieuse, tout un monde de forces dont la magie a emprunté l'idée à la religion. Nous pouvons maintenant comprendre d'où vient qu'elle est ainsi toute pleine d'éléments religieux. C'est qu'elle est née de la religion.